Le journal est présenté par Margot Steve.
Bonjour à tous. Cinquième candidature ou pas d'Abdelaziz Bouteflika, on le saura ce soir. Mais pour beaucoup d'Algériens, il faut maintenir la pression au-delà de ce 3 mars. Mobilisation aussi à Paris, nous serons en direct de la place de la République. Pas d'exercice militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis. Ils sont suspendus pour arrondir les angles avec la Corée du Nord. On ira aussi au Venezuela, le pays s'enfonce dans la crise. Les habitants ne s'en sortent plus, y compris les plus riches. Le Brexit inquiète les agriculteurs français alors que le salon de l'agriculture se termine ce soir à Paris. Les écouteurs, dangereux pour la santé, surtout si on écoute trop fort. L'OMS demande plus de contrôle. Et puis en fin de journal, ce sera la face cachée du globe avec Nabila Hamel. C'est un jour clé en Algérie. Abdelaziz Bouteflika a jusqu'à ce soir pour dire s'il se présente ou pas pour un cinquième mandat à la tête du pays. Une candidature qui provoque la colère en Algérie. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de la capitale cette semaine, sans réaction ou presque du pouvoir. Après des jours de mutisme, le président Bouteflika a limogé hier son directeur de campagne et de nouveaux appels à manifester ont été lancés, y compris en France, place de la République, à Paris, où vous vous trouvez, Angélique Ferrat.
Et oui, et c'est un rassemblement en couleur, aux couleurs de l'Algérie, parce que tout le monde porte un drapeau algérien. Et bien sûr, on chante l'hymne national. C'est aussi un rassemblement fort en parole. La diaspora algérienne peut dire en public ce que les gens au pays ont peur de dire, souligne une manifestante. Donc au-delà du non au cinquième mandat, on peut lire sur les pancartes « Libérer l'Algérie, non à un régime corrompu » ou encore « Non à la continuité ». Le ton est donc politique et il porte un réel espoir de changement pour tous ces manifestants. Une famille résume ainsi son sentiment. Mes grands-parents ont combattu contre la France. Aujourd'hui, on est déçus de ce qu'est devenu l'Algérie et on veut un autre pays pour nos jeunes, une meilleure Algérie. Quant à la question que tout le monde se pose, est-ce que Bouteflika va déposer une cinquième candidature aujourd'hui ? Beaucoup espèrent que le régime va comprendre le ras-le-bol du peuple. D'autres sont catégoriques, ils n'ont pas le choix. D'autres hésitent, ils le doivent. Enfin, tout le monde admet que tout est possible finalement, mais ils préviennent, cette fois, on ne se laissera pas faire.
Angélique Ferrat en direct de la place de la République à Paris. En Algérie, des milliers de personnes sont à nouveau dans les rues en ce moment, dans plusieurs villes du pays. Les bureaux de vote sont ouverts en Estonie pour des élections législatives qui s'annoncent très serrées et décisives pour les centristes au pouvoir. Ils font face à une percée de la droite libérale, mais surtout du parti d'extrême droite. La Corée du Sud et les États-Unis renoncent à leurs exercices militaires conjoints, ils l'annoncent ce matin. Une façon de calmer le jeu avec la Corée du Nord après l'échec du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Frédéric Ojardias.
Malgré l'échec de Hanoï, le processus de paix se poursuit. Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé l'annulation des manœuvres militaires baptisées Key Resolve et Fall Eagle, auxquelles participaient chaque année des centaines de milliers de soldats sud-coréens et américains. Ces jeux de guerre, comme les a surnommés Donald Trump lui-même, provoquaient à chaque fois la fureur de la Corée du Nord. Pyongyang les considère en effet comme des préparatifs à une invasion. Ces exercices massifs organisés côté sud obligeaient aussi l'armée nord-coréenne à rester en état d'alerte. Leur annulation vise à soutenir nos efforts diplomatiques pour parvenir à une dénucléarisation complète de la péninsule, précise Séoul. Il s'agit là d'une décision significative qui permet de continuer à réduire les tensions. C'est aussi une bonne nouvelle pour Kim Jong-un qui ne revient donc pas du Vietnam les mains complètement vide. L'année dernière, Corée du Sud et États-Unis avaient déjà annulé des exercices conjoints menés en été et en hiver. Washington a aussi mis fin au survol de la péninsule par ses bombardiers. Ces manœuvres seront remplacées par des opérations réduites destinées à maintenir la posture de défense des deux alliés.
Frédéric Ojardias de RFI pour France Culture. Juan Guaido sera-t-il de retour au Venezuela demain ? Le leader de l'opposition l'a promis, même s'il risque d'être arrêté. Juan Guaido demande toujours le départ de Nicolas Maduro qu'il juge responsable de la crise sans précédent qui touche le pays. Pénurie de médicaments, de nourriture, hyperinflation, la vie devient impossible pour la grande majorité des Vénézuéliens, y compris Benjamin Eli dans les quartiers riches de Caracas.
Donde vamos, señora?
A la frutería.
Alors on va à l'épicerie du coin.
¿Cuánto cuesta esa papa?
2800.
2800 bolivars pour une pomme de terre.
Non, non, non.
Une fortune pour Doris, 76 ans, ancienne avocate. Avant la crise, quand elle était en activité, elle pouvait toucher jusqu'à 1000 dollars par mois. retraité, elle a basculé dans la pauvreté, une pension d'un peu plus de 3000 bolivars, l'équivalent d'$1. Donc pour se nourrir, elle compte sur ses filles qui lui achètent de la nourriture. Altamira, les beaux quartiers de Caracas, c'est ici que vit Doris, propriétaire d'un appartement, c'est tout ce qui lui reste, un appartement en bon état, à première vue. Il n'y a pas d'eau ici. Parfois ça dure 4 jours. Ils ont dégradé la vie des Vénézuéliens au niveau ultime, une vie sans eau, vous imaginez ? L'ampoule à griller, c'est hors de prix, près de 20 000 bolivars selon Doris. C'est-à-dire plus que le salaire minimum ici au Venezuela. La retraite, c'est la misère. Nous avions un statut et nous n'avons plus rien. C'est une honte, une offense. Où est-ce que vous allez, Doris ? Elle va chez sa fille prendre sa douche. C'est sa vie, à Caracas. Là, c'est la vie.
Benjamin Illy, envoyé spécial de France Culture au Venezuela. Le Salon de l'Agriculture, dernier jour aujourd'hui, une édition marquée dès le discours d'inauguration d'Emmanuel Macron par la thématique européenne et la renégociation de la PAC d'ici 2 ans. Une politique agricole européenne qui va avoir du plomb dans l'aile avec le Brexit. Sans la Grande-Bretagne, c'est 5 milliards d'euros en moins dans le budget. Et cela inquiète beaucoup les agriculteurs français présents au Salon, Anne-Laure Chouin.
Le sujet est à ce point anxiogène que le site internet du ministère de l'Agriculture s'est fendu d'une page spéciale à destination des filières qui voudraient s'informer sur ce qu'il peut arriver et sur comment anticiper. Les producteurs de lait, par exemple, 3% du volume de lait produit en France est exporté au Royaume-Uni. Cela semble peu, mais pour Thierry Roquefeuille, président de la Fédération nationale des producteurs laitiers, cela peut avoir des répercussions importante.
Si le Royaume-Uni devient un pays étranger, on tombe dans la réglementation OMC, et la réglementation OMC fait qu'il y a des droits de douane qui se mettent. Donc ça veut dire que tous nos produits que l'on exporterait seraient plus chers au Royaume-Uni. Donc si nos produits sont rendus plus chers, ça veut peut-être dire qu'ils seront moins compétitifs au Royaume-Uni, et le Royaume-Uni peut peut-être faire un accord bilatéral avec les USA, avec la Nouvelle-Zélande, pour importer des produits moins chers.
Et puis il y a la pêche, les conséquences d'un Brexit dur seraient dévastatrices pour les pêcheurs français qui recueillent plus de 40% de leurs produits dans les eaux britanniques. Jacques Vossy, président de France Filière Pêche.
Que va-t-il se passer le 29 mars ? Est-ce qu'on est sur un no deal ? Pas d'accord. Ce qui a comme conséquence d'interdire à partir de 23h l'accès des eaux britanniques aux bateaux français. C'est-à-dire que vous allez avoir aujourd'hui plusieurs centaines de bateaux qui seront, s'il n'y a pas d'accord, signés, dans l'incapacité de pouvoir avoir accès aux eaux pour pouvoir lancer leurs filets et pêcher. Ce qui est ennuyeux, c'est que la profession est obligée aujourd'hui d'attendre. Il faut savoir que par voie de conséquence, les ports de débarquement, les équipements portuaires, les ateliers de transformation du poisson, les criées, toute l'offre potentielle au niveau des consommateurs peut être également impactée. Donc vous avez toute une filière qui peut se retrouver dans une situation très compliquée et très difficile.
À Bruxelles, on dit avoir bien conscience de cette situation, sans que ne soit pour l'instant proposé grand-chose pour y remédier. Or, le 29 mars, tient à rappeler le monde agricole, c'est demain.
Au lendemain d'un 16e samedi de mobilisation, le gilet jaune Christophe Chalençon lance une liste pour les élections européennes. Il l'annonce ce matin dans un communiqué. Attention à vos écouteurs, vous les avez peut-être en ce moment sur les oreilles. Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé met en garde à l'occasion de la journée de l'audition. Plus d'un milliard de personnes, des jeunes surtout, risquent des déficiences auditives parce qu'ils mettent le volume trop fort. L'OMS demande donc aux constructeurs de revoir leurs normes de sécurité. À Genève, Jérémy Lanche.
Plus de 5% de la population mondiale souffre déjà d'un handicap lié à une perte d'audition. Le taux pourrait doubler d'ici à 2050 si rien n'est fait pour changer les pratiques d'écoute d'appareils audio. L'ONU a donc décidé de revoir à la hausse les normes pour les fabricants. Shelly Shada est médecin à l'OMS.
What we are asking them to do is essentially three things.
Nous leur demandons trois choses. Firstly, premièrement, qu'ils incluent dans leurs appareils un système qui puisse vous dire combien de temps vous avez écouté l'appareil et à quel volume. Un peu comme un compteur de vitesse dans une voiture. Nous demandons aussi qu'il y ait des options de sécurité, comme un limitateur de volume. Une fois activé, si le volume dépasse un certain seuil, l'appareil pourra diminuer le son automatiquement jusqu'à un niveau jugé sûr. Enfin, nous souhaitons que ces données soient accessibles, que chacun puisse dire s'il a écouté trop longtemps l'appareil ou bien s'il a écouté trop fort.
D'autres solutions sont proposées, comme le contrôle parental du volume. L'OMS espère que les fabricants vont se plier à ces nouvelles recommandations mission. C'est dans leur intérêt, dit l'organisation, s'ils veulent continuer à vendre des appareils audio personnalisés. Quand on perd l'audition, elle ne revient plus. Et s'il ajoute de nouvelles fonctionnalités à un prix pour les constructeurs, la surdité a un coût encore plus élevé. Les déficiences auditives non prises en charge dans le monde coûtent chaque année 750 milliards de dollars au total.
12h40 sur France Culture, l'heure de la face cachée du globe avec vous Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour Margot. Le gouvernement danois a entrepris des consultations avec le Parlement sur une possible participation de l'armée danoise à l'opération Barkhane au Mali. Le parti thaïlandais Thai Rakshachart, proche du puissant clan Shinawatra, organise depuis hier de vastes rassemblements avant une décision de justice qui pourrait aboutir à sa dissolution. Or, l'on est à quelques semaines des élections. La junte reproche à ce parti sa tentative de présenter une princesse comme candidate au poste de Premier ministre. Un monument en hommage à Thomas Sankara et aux 12 personnes tuées en même temps que lui a été dévoilé hier à Ouagadougou, en marge du Festival du cinéma africain, le FESPACO. Thomas Sankara était considéré comme une icône du panafricanisme. Il a été tué le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qui a porté au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré. Pendant les 27 ans de règne de ce dernier et jusqu'au soulèvement populaire qui l'a renversé en 2014, la mort de Sankara était un sujet tabou dans le pays. Hier, à Ouagadougou, le président Christian Kaboré a estimé que tout était fait pour que ce dossier puisse être enfin jugé et que les responsables soient connus. L'Arabie Saoudite a annoncé vendredi la fin de l'enquête sur des militants, dont des femmes emprisonnées depuis près d'un an sans inculpation. Ils seront, précise Riyad, déférés devant la justice, d'où cette inquiétude de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Ahmed Ben Shemsi, porte-parole de Human Rights Watch à New York.
D'abord, on est déçus parce que nous, on demandait la libération, c'est un terme judiciaire, mais on demandait la libération parce qu'on considérait que c'était une arrestation arbitraire. Parce que les seules charges dont on entendait parler dans les médias étaient des charges qui nous semblent complètement illégitimes, comme saper l'unité nationale, la sécurité nationale, alors que nous connaissons ces militantes. Elles ont été très actives pour les droits des femmes en Arabie Saoudite, et notamment le droit de conduire qui, depuis, a été accordé par l'État, donc c'est complètement absurde. De cette situation. Et voilà, alors maintenant qu'on les met en accusation, là aussi on n'a pas les détails de cette accusation, mais si ça correspond à ce qui circule dans les médias et ce qui est circulé sur les réseaux sociaux, c'est complètement aberrant, et on ne pouvons que nous inquiéter effectivement de leur sort.
Et il est dit également que ces militantes ont été victimes de torture et de harcèlement sexuel en détention.
Plus, hélas encore, il y a eu des allégations de torture, de chocs électriques qui auraient été administrés en prison, de harcèlement sexuel. Au moins 4 parmi cette dizaine de femmes ont été sujettes à ça. Oui, selon des informations tout à fait crédibles et recoupées, hélas. Dont Toujaine Adatlou, qui est une célèbre militante des droits de la femme, de la démocratie, des droits humains, Hatoun El-Fassi et bien d'autres.
L'Ukraine ne participera pas à l'édition 2019 de l'Eurovision, organisée à Tel Aviv en mai. C'est le dénouement inédit d'un des scandales qui a agité le pays toute cette semaine. Le groupe Marouv, gagnant de la qualification nationale, a refusé de souscrire à certaines règles, notamment l'interdiction de se produire en Russie. Une controverse qui rappelle que l'Ukraine est un pays toujours en guerre 5 ans après l'annexion de la Crimée. C'est une correspondance de Sébastien Gobert à Kiev.
S'agissait-il de dénicher un talent artistique ou de recruter un soldat de la guerre d'information contre la Russie? La gagnante Marouf a été échaudée par les conditions de la chaîne publique Souspilné qui lui imposait, entre autres, de ne pas se produire en Russie. Elle a claqué la porte en refusant d'être un instrument dans l'arène politique, selon son expression. Aucun des autres finalistes à la qualification nationale à l'Eurovision n'a accepté de partir à Tel Aviv et l'Ukraine a dû annuler sa participation. Le débat fait rage dans le pays. Pourtant, l'Eurovision y est une plateforme politique depuis le début de l'agression russe en 2014. En 2016, la victoire de la Tatare de Crimée Jamala avait permis de mettre l'accent sur l'annexion illégale de la péninsule par la Russie. En 2017, c'était l'Ukraine qui accueillait le concours et les autorités avaient interdit d'entrer sur le territoire la finaliste russe, sous prétexte que celle-ci s'était produite en Crimée. Ce que l'édition 2019 révèle, c'est la potentielle remise en cause de la politique d'une rupture catégorique avec la Russie. De nombreux Ukrainiens croient au contraire que les liens culturels et familiaux entre les deux pays doivent primer sur les différents politiques. Dans ce contexte, la controverse sur l'Eurovision est déjà devenue une arme dans la campagne de l'élection présidentielle du 31 mars prochain, bien loin des considérations musicales.
À dimanche prochain.
La météo de ce dimanche, du vent à l'ouest et au nord, du soleil au sud.